Là, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder deux questions qui sont au cœur de l'éducation à la sexualité, qui sont le différentialisme et l'hétéronormativité. Je vais essayer de vous montrer des exemples de ces deux façons de voir la sexualité et le sexe, et puis aussi à chaque fois des pratiques d'émancipation. Alors, je vais essayer de... Voilà, venir. Je vais trouver des exemples de ce différentialisme et d'hétéronormativité qui sont tirés principalement, hein, pas seulement, mais principalement, de deux projets d'éducation à la sexualité. L'un français, donc, qui est une exposition qui s'appelait Zizi Sexuelle. Je pense que vous voyez, Titeuf, vous voyez à quoi ça fait référence. Bon, ils avaient fait une bande dessinée qui s'appelait Le Guide du Zizi Sexuel. Ils ont fait une expo à la Cité des Sciences qui ensuite a tourné en France et dans une partie de l'Europe, donc qui a eu énormément de succès, et je crois qu'elle tourne encore. Et puis l'autre exemple sur lequel je vais m'appuyer, c'est un projet suédois qui s'appelle Världens viktigaste bok, ce qui veut dire le livre le plus important du monde, et qui donc est paru l'année dernière, et qui correspond à peu près à la même cible d'âge que celle de l'expo. Voilà, là c'est 9-14 et 10-13, on est à peu près dans les, voilà, les pré-ados. Alors, je vais commencer par le différentialisme. L'une des idéologies les plus prégnantes dans l'éducation à la sexualité, c'est le différentialisme, que nous qualifierions d'exacerbé en France, tandis qu'il est combattu en Suède, même s'il est toujours présent. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'en Suède c'est merveilleux et tout va bien. Cela dit, en Suède, on réfléchit à la question, alors qu'en France, on est vraiment dans un impensé. Ce différentialisme, quand il est appliqué à l'éducation à la sexualité, il consiste à construire, à cristalliser, à naturaliser la différence entre les sexes, au lieu d'en présenter les similitudes. L'essentialisme va élargir cette naturalisation en présupposant qu'il y aurait une différence d'essence féminine et masculine, qui comprendrait en plus des différences anatomiques, des aptitudes, des centres d'intérêt divergents. Voilà, et donc dans ce cadre, effectivement, il s'agit souvent de réclamer l'égalité dans la différence, en toute méconnaissance du fait que l'ordre du genre est hiérarchisé, et par définition inégalitaire, et que mettre en avant la différence entre les sexes, c'est comme mettre en avant la couleur de la peau, etc. On ne peut pas être égaux quand cette différence est survalorisée, comme c'est le cas pour la différence des sexes. Cette revendication d'égalité dans la différence, c'est une entreprise qui est forcément vouée à l'échec, en tout cas c'est ce que j'en pense. Le différentialisme, il repose sur l'idée d'une complémentarité des sexes, hein, on l'a vu dans l'introduction. Complémentarité des sexes dans la reproduction, mais au-delà également, dans laquelle s'instaure cette impression d'équilibre dans l'hétérosexualité. Et évidemment, l'hétéronormativité, elle est intimement liée au différentialisme. Alors, ce qu'on constate dans l'éducation sexuelle à la française, c'est que garçons et filles sont présentés comme très différents et complémentaires, donc, différents à la fois physiquement et psychologiquement, donc physiquement dans leur corps, les manifestations de la puberté, les manifestations du désir, qui sont décrites de manière très différente selon qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, et psychologiquement dans leurs attentes, leurs comportements, etc. Alors, je vais donner plusieurs exemples. Le différentialisme appliqué à l'anatomie consiste par exemple à insister sur les différences des corps plutôt que sur leurs similitudes, notamment en utilisant l'opposition pénis-vagin pour définir les sexes. Cette présentation des organes génitaux, elle n'est pas fausse en soi, évidemment, mais il s'agit d'une sélection d'informations. Elle reflète une conception des sexes comme étant complémentaires et une conception de la sexualité dans une perspective de reproduction plutôt que dans une perspective de plaisir. Effectivement, là, ce que tu disais tout à l'heure, on va, comme dans la consultation gynéco, dans les cours de SVT ou dans les séances d'éducation à la sexualité, on va surtout parler des organes internes et leur fonctionnement, et surtout insister sur la complémentarité de ces organes. Effectivement, les ados vont savoir comment fonctionne un utérus, par exemple, vont savoir ce que c'est que les ovaires, etc., et rarement, ou plus rarement, savoir ce que c'est qu'un clitoris et comment ça fonctionne. Alors, pratique d'émancipation. Il est possible, pourtant, de présenter autrement les sexes. Donc là, c'est une illustration qu'on trouve dans un petit livre qui s'appelle « La revanche du clitoris », rien que le titre est rigolo. On peut par exemple mettre en évidence l'origine embryologique commune du pénis et du clitoris. Si on veut comparer ce qui est comparable, peut-être qu'on peut comparer effectivement pénis et clitoris, qui sont au départ le même organe. Le gland du clitoris, c'est l'équivalent du gland du pénis. Après, on a deux corps caverneux qui sont réunis pour former le pénis et qui sont séparés, dans le cas du clitoris, en deux bulbes vestibulaires de chaque côté du vagin. Si vous voulez voir des schémas plus précis, ça donne ça. Et effectivement, si on se pose dans une présentation des organes génitaux non différentialistes, on va veiller à ne pas oublier de présenter le clitoris, ce cher inconnu, hein, comme disait le documentaire, que je vous conseille. Voilà, le fait de parler du clitoris, qui est un organe qui ne sert à rien dans la reproduction, casse ce différentialisme et casse cette idée de la complémentarité des sexes. On est bien plus sur une vision parallèle des organes génitaux. Le livre le plus important du monde, que je citais tout à l'heure, le livre suédois, donc, souligne aussi cette similarité de fonctionnement des organes sexuels et plus généralement insiste sur le fait que les différences liées au sexe ne sont que des différences parmi une multiplicité d'autres différences qui distinguent chaque corps de tous les autres. Par exemple, dans cette image-là, on a des vestiaires avec effectivement des garçons d'un côté et des filles de l'autre, mais ce qu'on constate, c'est que tous les corps sont différents et qu'en réalité, des corps peuvent être bien plus différents entre personnes de même sexe qu'entre personnes de sexe dit différent. Donc voilà, l'idée, c'est que la nudité, elle laisse apparaître une diversité de couleurs de peau, de handicap, de taille, de corpulence, de musculature, etc. Et que cette diversité, elle dépasse largement les sexes. Oui, on est tous différents, mais pas simplement en fonction du sexe. Et donc ce manuel, non seulement donc, il met en scène la diversité des corps, mais il aborde aussi l'intersexuation, hein, tous les cas où les organes sexuels sont ambigus ou indéterminés. Et puis le manuel aborde également la transidentité. Voilà, donc tout ça, ça remet en question cette bicatégorisation par sexe. Deuxième cas de différentialisme en anatomie, c'est quand on analyse les manifestations du désir et de l'excitation en éducation à la sexualité. Hein, parfois, on essaye d'expliquer ce qui se passe quand on est excité. Le différentialisme, il va partir de l'idée que ces manifestations du désir et de l'excitation sont radicalement différentes selon qu'on est un garçon ou qu'on est une fille. Je cite donc un panneau de l'exposition « Zizi sexuelle » qui décrit donc la phase d'excitation comme il suit, entre guillemets. La fente de la fille commence à être mouillée et le zizi du garçon devient tout dur comme un piquet. Voilà. Donc on a d'un côté, effectivement, les filles, quand elles sont excitées, elles produisent une lubrification et les garçons, quand ils sont excités, ils ont une érection. Cette façon de présenter les choses, elle n'est pas neutre non plus. C'est-à-dire qu'elle accentue, encore une fois, les différences et l'idée d'une complémentarité des sexes. Pratique d'émancipation. Le livre Le plus important du monde, par exemple, précise d'une part que les deux sexes produisent une lubrification, que les deux sexes entrent en érection, puisque les corps caverneux se gorgent de sang également, et que, par exemple, les filles comme les garçons peuvent éjaculer. Voilà. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont qu'on peut souligner, que d'abord, c'est pas parce qu'on est excité qu'on a forcément une érection, non plus, et par ailleurs que les garçons et les filles peuvent avoir des érections, les garçons et les filles peuvent éjaculer, etc. Voilà. Par ailleurs, toujours sur ces manifestations de l'excitation, on a aussi tendance à interpréter les capacités physiologiques, exemple l'érection du pénis ou la lubrification du vagin. On a tendance à interpréter ces capacités physiologiques en leur donnant une unique fonction. Je cite à nouveau l'exposition sexuelle dans un panneau qui s'appelait « La fresque de l'amour ». On apprend, donc je cite, que le garçon qui a envie de faire l'amour a une érection. Pas toujours. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc, le garçon qui a envie de faire l'amour a une érection. Son sexe, entre parenthèses, le pénis, devient assez dur pour entrer dans le sexe de la fille, entre parenthèses, le vagin. La fille qui a du désir sent un peu de liquide couler de son vagin. Ce liquide permet de rendre le vagin humide pour que le sexe du garçon puisse entrer facilement dedans. Donc là, on est vraiment typiquement dans une interprétation. Effectivement, il se passe des choses et on interprète en donnant une fonction à chaque capacité physiologique. Pratique d'émancipation. Ne pas présupposer que les organes et leurs capacités n'auraient qu'une seule fonction. Évidemment, l'érection d'un pénis peut servir à pénétrer un vagin, mais peut servir à faire plein d'autres trucs. Et par ailleurs, la lubrification d'un vagin peut servir à préparer une pénétration, mais peut servir à plein d'autres trucs aussi. Donc voilà, encore une fois, casser ce différentialisme et cette présentation de la complémentarité des sexes, c'est aussi faire attention à ne pas surinterpréter des capacités physiologiques. Tout ça pour en venir donc à la norme de la pénétration vaginale, qui est bien sûr qui existe bien sûr parce que quand on conçoit la sexualité en se calquant sur la complémentarité des sexes dans la sexualité reproductive, on a tendance à définir la sexualité comme étant bien sûr hétérosexuelle, mais également pénétrative, et pénétrative d'un pénis dans un vagin. C'est pour ça que je précise pénétration péno-vaginale, qui est devenue tellement une norme que le simple fait de parler de pénétration aujourd'hui sous-entend pénétration péno-vaginale, alors qu'il existe plein d'autres pénétrations. On peut pénétrer plein d'autres orifices avec plein d'autres choses qu'un pénis. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on voit cette norme de la pénétration péno-vaginale ? Dans l'éducation à la sexualité, c'est assez marquant. Par exemple, quand on parle de la première fois, quand on demande à quelqu'un quand est-ce que c'était votre première fois, ou la première fois, voilà ce qu'il faut faire, ou ce à quoi il faut penser, etc. On sous-entend bien souvent la première fois où un vagin est pénétré par un pénis. Concrètement, ça voudrait dire que les lesbiennes seraient vierges à vie, par exemple. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, quand on fait l'éducation à la sexualité, première chose à laquelle on peut penser, essayer de déconstruire cette idée qu'il y aurait une première fois, notamment avec le mythe autour de l'hymen qui serait une barrière qui disparaîtrait au moment de la première pénétration, etc. Essayer voilà, de remettre en cause cette idée de la première fois, parler plutôt des premières fois. Il y a plein de premières fois, premier baiser, voilà. On peut aussi définir, autodéterminer ou donner le droit à chacun, à chacune d'autodéterminer ce qu'on considère comme sa première fois. Donc voilà, essayer de remettre en question cette définition de la première fois. Deuxième chose à prendre en compte, donc à nouveau extrait de l'exposition zizisexuelle, la pénétration péno-vaginale, c'est l'unique pratique sexuelle qui est décrite par l'exposition, ce qui au passage pose un sérieux problème dans la prévention de la transmission des infections sexuellement transmissibles, parce que il n'y a pas que la pénétration péno-vaginale qui peut potentiellement être un facteur de risque de transmission. Alors cette focalisation sur la pénétration péno-vaginale de l'éducation à la sexualité française en particulier, mais suédoise aussi, il faut pas se leurrer un peu quand même, elle suppose l'oubli, l'invisibilisation, la marginalisation, la dévalorisation d'une infinité de pratiques non fécondantes. On va en citer quelques-unes, mais on va pas toutes les citer. L'automasturbation, pour commencer, les pratiques homosexuelles en général, du coup, la masturbation de quelqu'un d'autre, le sexe oral, le sexe anal, les pratiques avec sextoy. Voilà, donc il y a énormément de choses qui ne sont absolument pas prises en compte dans cette définition. Donc on peut lire, hein, si vous voulez. En plus, ce qui est bien, c'est qu'au début, on sent qu'il y a une tentative de déjouer l'hétéronormativité en parlant d'une personne. Donc on commence à être amoureux d'une personne. Ah, c'est ouvert, c'est ouvert. Au passage, c'est quand même une norme du lien entre sexualité et amour. On est forcément censé être amoureux quand on couche avec quelqu'un. Alors on a envie de l'embrasser, puis de la caresser, puis d'être caressé par elle, jusqu'à faire l'amour avec elle, parce que tout ce qui est embrasser, caresser, ça ne fait pas partie du vrai sexe. Voilà. Les amoureux vont alors se rapprocher et joindre leur corps par le sexe. Pour cela, le garçon s'allonge sur le corps de la fille. Donc là, on revient quand même. Voilà. Et en plus de ça, on revient dans une position qui est particulière, qui est celle du missionnaire. Donc il n'est pas n'importe quelle position non plus. Elle ouvre les jambes pour que le sexe du garçon entre dans le sien, mais on peut aussi faire l'amour dans d'autres positions que celle-ci. Donc il y a quand même une ouverture. Effectivement. Ce qu'on constate, c'est que dans les autres illustrations de l'exposition, il n'y a jamais d'autres positions qui sont illustrées, et que on comprend, en fait, ça sous-entend qu'il s'agit d'autres positions de pénétration péno-vaginale, pas d'autres façons de faire du sexe. Voilà. Donc ces pratiques-là, toutes ces autres pratiques, elles sont, quand elles sont abordées, puisqu'elles sont généralement pas abordées, mais quand elles sont quand même abordées avec les jeunes dans le cadre de l'éducation à la sexualité, elles sont plutôt présentées soit comme du sexe sale, immoral, dangereux aussi, soit comme du sexe avancé, sophistiqué, élaboré, voire du sexe élitiste. Voilà. Et donc on va classer les types de pratiques en disant la pénétration pénovaginale, c'est la pratique de base, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis après, il y a des choses un peu élaborées, un peu compliquées, comme le sexe oral. Voilà. Ce qui contredit en réalité ce que les éducateurs et les éducatrices à la sexualité peuvent constater, par exemple, dans les questions anonymes qui sont posées par les ados. La pénétration pénovaginale, c'est l'un des trucs les plus techniques et les plus compliqués. Là, il y a énormément de questions qui s'y rapportent. Comment on fait pour avoir une érection suffisante? Est-ce que ça fait mal? Comment on fait quand ça fait mal? Etc. C'est technique. C'est beaucoup plus compliqué que tout un tas d'autres pratiques qu'on considère pourtant et qu'on présente pourtant comme étant élaborées. Voilà. Alors, émancipation. Dans le livre le plus important du monde, la norme de la pénétration pénovaginale est déjouée par la description d'une diversité de pratiques sexuelles de manière non hiérarchisée. C'est ça qui est intéressant, c'est que par exemple la partie sur l'automasturbation, elle est aussi longue que celle concernant le sexe non solitaire. Alors qu'on ne parle absolument pas d'automasturbation, on le mentionne rapidement dans l'exposition Zizi Sexuelle, mais on n'en parle pas et on n'explique pas comment on fait, etc. Dans le livre le plus important du monde, l'automasturbation fait partie de la sexualité, et non seulement en fait partie, mais constitue vraiment une forme la plus fréquente. Donc on la décrit énormément, et puis on décrit d'autres pratiques sexuelles, pas simplement d'autres types de pénétration pénovaginale et position, mais tout type de pratique sexuelle. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant la notion de consentement mutuel, bien sûr, l'importance de l'autodétermination de chaque personne, par chaque personne, de ses propres limites. Et notamment, il parle de savoir reconnaître et savoir écouter les sensations de oui et de non qu'on a au fond de nous. Alors qu'on fasse des montagnes russes ou du sexe, c'est des choses qu'on est censé reconnaître. On est censé, voilà, quand on couche avec quelqu'un, ressentir des sensations de oui, d'envie en réalité, et savoir écouter et reconnaître quand on se dit non à soi-même. Voilà. Et encore une fois, bien sûr, on n'hésitera pas à parler du clitoris. Qui effectivement est tout à fait passé sous silence dans l'exposition Zizi Sexuelle. Mais on peut aussi parler par exemple de la prostate, qui est également un organe tout à fait tabou, alors que sa stimulation permet vraiment d'atteindre des orgasmes puissants, paraît-il. Et donc voilà, on a un certain nombre d'organes dont on ne parle pas parce qu'ils n'ont pas de lien avec la reproduction et dont on peut parler sans hiérarchiser quel est le plaisir socialement acceptable, etc. Donc voilà pour le différentialisme portant sur l'anatomie. Deuxième chose, différentialisme portant sur les comportements. Les garçons et les filles sont présentés dans l'éducation à la sexualité en général, l'éducation à la vie affective et sexuelle au sens large, mettons. Garçons et filles sont présentés comme fondamentalement différents dans leur comportement, dans leur psychologie. Chacun est encouragé à respecter la différence de l'autre, hein. Les garçons pensent plus souvent au sexe que les filles, mais bon, ils sont comme ça, donc voilà. Les filles sont plus romantiques. Alors, je vais donner à nouveau des exemples tirés de l'exposition Zizi Sexuelle. La première pièce de l'exposition Zizi Sexuelle, c'était une pièce qui s'appelait « Être amoureux ». Et donc on avait, bon, en dehors d'images uniquement hétérosexuées, ou être amoureux c'est forcément être amoureux d'une fille, donc voilà, on avait aussi une sorte de, je sais pas trop comment le décrire, c'est un mi-chemin entre un punching ball et un truc, vous savez, dans les foires où il faut taper très fort pour que ça sonne, là. Donc là en fait l'objectif c'était, il fallait serrer le plus fort possible, et avec l'idée que plus on serre fort et plus on aime. Alors, quand j'ai souligné que peut-être l'analogie entre serrer très fort et l'amour, ça pouvait être un petit peu problématique, on m'a dit que j'avais l'esprit mal tourné. Mais donc voilà, ça c'était dans la première pièce, être amoureux. La deuxième pièce de l'exposition, c'était la pièce être amoureuse. Donc déjà, on laisse entendre qu'il faut deux pièces séparées, tellement c'est pas la même chose d'être amoureux que d'être amoureuse. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette deuxième pièce, à part une marguerite, je t'aime un peu beaucoup, elle appelle passionnément, il y avait un lit en forme de cœur sur lequel on pouvait regarder des extraits de films romantiques, voilà, avec des gens qui s'en passent. Voilà, alors là, on a clairement un exemple de différentialisme. On insiste sur les différences plutôt que sur les similitudes. Et on a tendance en France à renforcer, comme ça, la norme et les stéréotypes, l'idée que les garçons seraient actifs et les filles passives, l'idée que les garçons seraient sexuels et les filles amoureuses, etc. Pratique d'émancipation. Alors, pas dans l'expo Zizi Sexuelle. comment est-ce qu'on fait pour s'émanciper de ce différentialisme-là ? Eh bien, en remarquant, par exemple, et en faisant remarquer aux jeunes notamment, que le désir sexuel des filles, il est tellement tabou qu'il est transformé en sentiment pour être socialement acceptable. Et de l'autre côté, chez les garçons, on va encourager moins facilement l'expression des sentiments amoureux, et on va pousser les garçons à interpréter leurs sentiments amoureux comme étant de l'ordre du désir sexuel. Ce qui nous fait dire que le genre sexualise les sentiments des garçons et sentimentalise le désir sexuel des filles. Voilà. Et donc le fait effectivement de mettre ça en valeur, d'expliquer aux garçons et aux filles que les garçons et les filles peuvent ressentir des sentiments amoureux, les garçons et les filles peuvent ressentir du désir sexuel, c'est aussi lutter contre ce différentialisme et évidemment dénaturaliser cette fameuse opposition fille romantique, garçon plus sexuel. Dans le livre Le plus important du monde, on n'hésite pas carrément à expliquer le genre. Comment on l'explique alors déjà, voilà, on essaie de présenter les garçons et les filles comme étant plutôt semblables. On explique que c'est plutôt la société qui essaie de les différencier. Alors là, on a vraiment la métaphore des boîtes, quoi. On colle aux enfants des boîtes avec des contenus tout à fait différents. Et donc, comment on explique le genre dans ce manuel ? Eh bien, sous la forme de la métaphore de la fabrique des garçons et des filles, où on voit donc tout un tas de petits enfants qui sont plutôt asexués au départ et à qui on donne des boîtes différentes selon le sexe. Et donc, on en fabrique Killar des garçons ou Sheyel des filles de cette manière. Voilà. Donc, c'est la société qui essaye sans cesse de distinguer les garçons et les filles en les soumettant à des socialisations différenciées qui forgent leur goût, leur centre d'intérêt, leur façon de se tenir, de se comporter, de s'exprimer, etc. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut expliquer aux enfants de manière relativement simple. Enfin, c'est pas non plus très très théorique. À la fin du chapitre sur la fabrique des garçons et des filles, on a cette petite image un peu de foire au grenier où on constate que donc si on n'est pas content de la boîte qu'on a reçue, on a le droit soit d'en changer, soit de changer le contenu, soit de s'en débarrasser, soit de voilà, d'inventer sa propre boîte. Mais c'est, encore une fois, un questionnement de la norme et surtout une remise en question de ce différentialisme. Alors, dans l'éducation à la sexualité, l'hétéronormativité, elle est omniprésente, mais comme dans le reste de la société, omniprésente, sauf quand, justement, on fait un travail actif de réflexion et de déconstruction. Parce qu'en gros, voilà, de base, si on n'y réfléchit pas, l'éducation à la sexualité est hétéronormative et c'est seulement si on travaille dessus qu'on peut s'en extraire. Alors, comment s'exprime l'hétéronormativité dans l'éducation à la sexualité ? Eh bien, par exemple, par la peur d'encourager l'homosexualité en parlant. L'idée, par exemple, qu'on pourrait promouvoir l'homosexualité juste en citant le terme « homosexualité ». Voilà. Par la peur également d'amener la confusion du genre en parlant. Encore une fois, voilà, le simple fait de prononcer le mot genre donnerait des idées aux enfants, etc. Par l'incapacité aussi à penser l'individu autrement que dans son opposition à l'autre sexe entre guillemets, et puis voilà, plus globalement par le différentialisme, par la focalisation biologiste sur la reproduction, qui suppose donc la complémentarité des sexes, par les stéréotypes sexuels, etc. Donc on a beaucoup de façons de enfin, cette hétéronormativité s'exprime de nombreuses façons dans l'éducation à la sexualité. Alors, pour illustrer cette prégnance de l'hétéronormativité dans l'éducation à la sexualité, et puis encore une fois des pensées et des pratiques d'émancipation pour ne pas être trop déprimé, je propose d'utiliser l'exemple de la place réservée à l'homosexualité dans l'éducation à la sexualité, avec quatre attitudes que je relève suivant le degré de réflexion et de profondeur de la réflexion. Alors, je vais commencer par l'exclusion. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas forcément de quelque chose de volontaire, mais par manque de réflexion, souvent, effectivement, on adopte une perspective hétéronormative sans forcément s'en rendre compte. Mais par contre, parfois, ça peut être clairement par conviction. En tout cas, voilà, l'hétéronormativité, elle peut avoir pour conséquence l'exclusion des comportements, identités et relations non conformes de la sphère de la sexualité socialement envisagée. Par exemple, on a classé pendant très très longtemps l'homosexualité parmi les pathologies. Donc ça ne faisait pas partie de la sexualité, c'était considéré comme une pathologie jusqu'en 1990 par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, là, par exemple, en 2013, Si vous allez sur le site du diplôme interuniversitaire de sexologie de Paris Descartes, alors je ne sais plus combien c'est, vous allez constater que le chapitre homosexualité est classé dans pathologie, encore. Voilà. Donc ça, voilà, c'est une façon d'exclure l'homosexualité du champ de la sexualité. Autre cas, l'invisibilisation de la diversité des sexualités, par exemple, donc à nouveau dans l'exposition « Zizi sexuelle », et dans cette fameuse fresque « C'est quoi l'amour ?», où clairement, on a, voilà, on définit la sexualité par l'hétérosexualité. D'abord, il faut un garçon et une fille. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe s'il n'y a pas un garçon et une fille. Donc l'automasturbation, ça n'existe pas, et toute autre pratique, ça n'existe pas non plus, les pratiques entre personnes de même sexe, ou à plus que deux, enfin voilà, il manque quand même pas mal de choses. Alors, quand on pose la question à la conceptrice de l'exposition, elle explique que, donc je ne citerai pas son nom, la cible de l'exposition, qui sont donc les 9-14 ans, ne serait pas encore concernée par la question, ils sont trop petits en fait, pour parler d'homosexualité, trop jeunes pour entendre parler d'homosexualité. Elle utilise même, donc sur cette fresque de l'amour, en fait, bon, je ne vous ai pas mis l'ensemble, mais en gros, c'est une sorte de scénario de la relation sexuelle type, où on a d'abord les préliminaires, puis la pénétration pénovaginale, et enfin l'éjaculation des garçons. Et donc, donc en fait, c'est un peu comme le scénario de la pornographie, sauf que l'éjaculation n'est pas faciale, mais sinon c'est à peu près pareil. Mais voilà, globalement. Et il n'y a pas de sodomie non plus. Ce scénario-là, quand on questionne sur les choix de représenter uniquement ce scénario-là et d'en faire effectivement une sorte d'idéal type du rapport sexuel, j'ai eu donc cette réponse-là. Je le revendique, non seulement je le revendique, mais c'était en accord avec les experts. Mais déjà, montrer ça à des enfants, c'est déjà une première étape, j'assume complètement. Je pense qu'on ne s'adresse pas à point de suspension. C'est comme, on prend la division à un chiffre, et puis au fur et à mesure, on se rend compte, plus tard, on se rend compte qu'on n'a pas appris ça, et que ça change quand il y a une virgule. Il y a un temps pour tout, les enfants, déjà, ils trouvent la sexualité dégoûtante, donc voilà. Donc voilà, ça, c'est la division simple, d'accord ? Toutes les pratiques autres que la pénétration péno-vaginale sont considérées comme trop compliquées, et cette métaphore de la division simple, la pénétration péno-vaginale qui serait la division simple, et tout le reste qui serait des divisions à virgule, si on pousse ce raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que l'homosexualité serait à la sexualité ce que la division à virgule est à la division. Une version plus compliquée, plus élaborée, plus avancée, en tout cas quelque chose dont on ne peut pas parler aux enfants parce que c'est trop compliqué pour eux. Quoi. Aux enfants, on se contentera de parler de la division de base, celle à un seul chiffre, c'est l'hétérosexualité et en plus seulement la pénétration péno-vaginale. À noter qu'il n'y a pas que cette norme de la pénétration péno-vaginale qui se trouve dans cette fresque de l'amour, puisque évidemment c'est couplé à de nombreuses autres normes qui sont perspectives dans la description de ce rapport sexuel type et dans l'illustration. La seule sexualité présentée dans cette expo, c'est une sexualité conjugale, monogame, en missionnaire, entre partenaires de même couleur de peau, entre partenaires sans handicap, et on peut continuer comme ça. Il y a énormément de normes qui sont juste représentées dans ce... Voilà, au passage, l'homme est en bleu, et la femme est en rose, elle a les cheveux longs, elle est... Voilà. Donc voilà pour cette première attitude dans le fait d'évoquer ou pas, du coup, l'homosexualité dans l'éducation à la sexualité. Deuxième attitude, ce qu'on va appeler la pédagogie de la tolérance. Alors, il y a une fois la mention de l'homosexualité dans l'exposition Zizi sexuelle. C'est dans un quiz sur un petit écran interactif. C'est la question 8 sur 10. Donc tout le monde ne l'a pas vu. Il faut vraiment chercher. Donc le titre, pour ceux qui ne voient pas, c'est écrit « C'est nul de se moquer des homosexuels. Es-tu d'accord ?» Je pense que cette phrase, ce titre-là, résume tout à fait la pédagogie de la tolérance, qui est encore majoritaire dans l'éducation à la sexualité qu'on fait en France, qui est « C'est nul de se moquer des homosexuels ». Alors, on peut analyser vite fait l'image. Hein. On a, en termes de couleurs, plutôt un code bleu-jaune. On peut noter aussi les parenthèses, les homosexuels avec LE entre parenthèses. Effectivement, là, en fait, on s'adresse pas trop aux lesbiennes, on ne parle pas trop des lesbiennes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le quiz, il y avait une voix off, et c'est une voix off d'homme qui parle.
L'illustration aussi est intéressante, puisque c'est la seule fois dans toute l'expo où on cite le terme d'homosexualité, mais l'illustration, c'est quand même un couple hétéro. Alors, ils sont contents parce que j'ai répondu oui, mais si vous répondez non, ils sont un peu la tête, ils sont un peu séparés du banc et ils sont un peu la tête. Alors, on peut lire aussi le petit texte. Donc, oui, c'est nul de se moquer des homosexuels. À chacun la sexualité, chacun a la sexualité qu'il veut, sous-entendant que c'est un choix. Que l'on soit hétérosexuel ou homosexuel, on ne peut pas être rejeté ou méprisé pour ses préférences. Alors, si on peut, en fait, c'est bien le problème. La formule est un peu curieuse. Injurier, humilier ou exclure une personne parce qu'elle est une blonde avec des gros seins, ou parce qu'elle est homosexuelle, ou pour d'autres raisons liées à ce qu'elle est heureusement interdit par la loi et puni. Peut-être qu'il y a une volonté là d'intersectionnalité, je ne sais pas, de mélanger le sexisme avec le... Alors voilà, en gros là ce qu'on voit c'est que l'homosexualité quand elle est abordée sous l'angle des risques. On en parle seulement pour dire que c'est dangereux l'homophobie parce qu'effectivement... vous avez entendu parler des statistiques qui montrent que les jeunes LGBT ont entre 7 et 13 fois plus de risques de commettre une tentative de suicide. Donc effectivement, voilà, il y a des risques liés aux violences homophobes, les suicides plus fréquents chez les jeunes LGBT, etc. Et puis, donc avec un appel à la tolérance. Mais qui est-ce qu'on appelle à tolérer qui ? C'est ça la vraie question. En ce qui concerne la lutte contre l'homophobie, la pédagogie de la tolérance, ça a longtemps été la seule pédagogie qui a existé, en France notamment, et contrairement à des pays comme les États-Unis ou la Russie, où l'homophobie peut parfois être revendiquée. En France, la plupart des personnes qui s'expriment publiquement, aussi bien les progressistes de gauche que les modernisateurs de droite, mettons, tiennent à se détacher du stigmate de l'homophobie en affichant une tolérance envers les homosexuels. Tout le monde aime les homosexuels en général et a un ami homosexuel en particulier. L'homophobie n'est plus quelque chose de politiquement correct en France, quoique avec les débats des derniers mois, on peut en discuter. En Suède, les professionnels de l'éducation à la sexualité, alors là je parle bien de ceux qui réfléchissent uniquement à ça constamment toute la journée, sont conscients de l'hétéronormativité ambiante et ont construit des outils pour lutter contre l'homophobie et l'hétérosexisme qui ne passent pas par la pédagogie de la tolérance, mais c'est pas quelque chose qui est encore tout à fait généralisé. Alors, qu'est-ce que c'est la pédagogie de la tolérance ? Avec une pédagogie de la tolérance, on se focalise sur les groupes déviants qui dévient à la norme, sans s'interroger sur la norme elle-même et sans s'interroger sur la construction des catégories ni sur les rapports de pouvoir. La tolérance, c'est une valeur qui est présentée comme positive et qui est revendiquée au niveau individuel et collectif, mais il faut bien se rendre compte que c'est un instrument de réaffirmation de la norme. La tolérance, elle a toujours une limite, déjà, pour commencer. On tolère jusqu'à un certain point, même si ce point évolue d'une société à l'autre. Pour le cas de l'homosexualité, par exemple, on tolère l'homosexualité, mais en la considérant comme une maladie, c'était le cas jusque dans les années 90, globalement. On tolère l'existence des homosexuels, mais il faut qu'il ou elle reste discret, par exemple. On tolère la relative visibilité des homosexuels, mais il n'est pas question qu'il ou elle revendique des droits. Ou alors on accepte la reconnaissance légale des unions homosexuelles avec le mariage, mais il ne faut pas non plus qu'ils demandent des droits d'adopter des enfants ou de recourir à l'AMP. Donc voilà, la tolérance, c'est toujours jusqu'à un certain point. Et le point commun entre toutes ces attitudes-là, c'est ce « on tolère ». Qui est ce « on tolère » Le « on », c'est en fait un « nous » qu'on oppose à « eux ou elles ». Qui signifie que les tolérants et les tolérantes sont ceux et celles qui occupent une place dominante dans le système hétéronormatif, c'est-à-dire les hétérosexuels. Et ce sont les hétérosexuels, et au passage les personnes cis, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas trans, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui définissent les limites de cette tolérance sociale. C'est les personnes qui sont en haut de la pyramide, qui décrètent « toi je te tolère, toi je te tolère pas ». Et donc qui font peser sur les personnes LGBT en l'occurrence, une sorte d'épée de Damoclès de l'exclusion, de la stigmatisation, de la marginalisation, si elles en viennent à dépasser ces limites. L'expression de l'identité sexuelle, par exemple, doit correspondre à certaines représentations sous peine d'être rejetées. Les individus sont priés de se conformer un minimum à l'ordre du genre, par exemple. Les hommes gays sont tolérés, mais priés de ne pas se comporter de manière considérée comme trop féminine, comme trop flamboyante, ou mettant ostensiblement en scène la performance des rôles sexuels, ce qu'on appelle la folophobie, la phobie des homosexuels folles, c'est quelque chose qui est tout à fait intégré à la fois évidemment par les hétéros, mais également dans la communauté gay elle-même, qui effectivement dans sa quête d'être tolérée n'apprécie pas d'être associée forcément à des représentations de l'homosexualité considérées comme caricaturales, un terme qu'on retrouve très souvent quand on discute avec des gens sur la façon dont l'homosexualité est représentée à la télévision. Ah bah c'est caricatural. Voilà. Donc il y a certaines formes tolérables de visibilisation de l'homosexualité et d'autres qui ne le sont pas. Les lesbiennes sont également tenues de rester invisibles. La lesbienne invisible, ça veut dire surtout une lesbienne qui se conforme un minimum aux normes et aux règles de la féminité, sous peine d'être prise à partie et d'être rappelée à l'ordre de manière plus ou moins violente. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de la norme ? Eh bien les individus qui sont tolérants s'auto-congratulent d'être extrêmement généreux, d'être très ouverts d'esprit, sans être conscients que le fait qu'ils s'octroient le droit de tolérer d'autres personnes ou d'autres comportements est justement la preuve de leur privilège de dominant. Les institutions revendiquent d'ailleurs leur tolérance comme une valeur ajoutée, hein. C'est quelque chose que l'on voit, enfin, par exemple l'éducation nationale française est très fière de prôner la tolérance, et la tolérance apparaît, selon nous hein, en tout cas, comme une étape dans une pensée qui est inachevée. Bien sûr, la tolérance c'est mieux que les agressions homophobes, mais par contre on est vraiment encore loin de l'égalité. Enfin voilà, c'est cette dichotomie entre eux et nous, entre normal et différent, qu'on retrouve dans la pédagogie de la tolérance. Même s'il n'y a plus une stigmatisation ouverte de l'homosexualité, la tolérance, c'est aussi continuer de véhiculer une vision négative de l'homosexualité. Parce qu'on invite les gens en situation de domination à la supporter comme quelque chose de mauvais. En fait, on ne tolère pas quelque chose de positif, on ne tolère que quelque chose dont on préférait que ça n'existe pas. C'est bien ça le souci. Quelque chose dont on souffre l'existence. Voilà, donc je voudrais reprendre la réflexion de l'intellectuel Thomas Paine avec l'idée que la tolérance n'est point le contraire de l'intolérance, elle n'en est que la contrefaçon. Toutes deux sont despotiques, l'une s'octroie le droit de limiter la liberté et l'autre de l'accorder. Voilà, tolérer, c'est s'arroger le pouvoir de concéder à quelqu'un le droit de vivre, en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas vraiment, on n'est pas du tout dans le registre de l'égalité ni dans le registre du respect. Voilà pour cette deuxième attitude dans le traitement de l'homosexualité dans l'éducation à la sexualité. Troisième attitude. L'inclusion, la pédagogie inclusive ou de l'inclusion, qui s'oppose donc à la pédagogie de la tolérance parce qu'elle revendique l'inclusion de tous les individus au nom du respect et de l'égale valeur des êtres humains. Donc là, on n'est plus en train de dire « bon, ok, t'as le droit de vivre », on est vraiment en train de dire « tous les individus sont d'égale valeur, d'accord, et donc méritent le respect ». Et il n'y a pas quelqu'un qui se met au-dessus pour dire « toi oui, toi non ». Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une pédagogie inclusive ? Première chose, il faut être très attentif dans le langage qu'on emploie, et dans les illustrations, du coup, si on fait une expo ou un livre. Il faut être très attentif à tous les détails classants pour essayer constamment d'élargir la perspective pour embrasser toutes les personnes. Dans le livre le plus important du monde, par exemple, les textes s'adressent à toutes les personnes et les illustrations accordent vraiment une grande importance à la représentation de la diversité. Des identités sexuelles, des pratiques sexuelles, des apparences physiques, hein, on l'a vu pour l'image sur le corps, mais aussi des modes de vie, des handicaps, des origines culturelles, etc. Et beaucoup de personnages de ce manuel, par exemple, ont l'air de sexe indéterminé. Ils ont l'air juste jeunes, mais on ne sait pas forcément si c'est un garçon ou une fille, et ce n'est pas important. Enfin, chacun peut se projeter comme il le souhaite, et donc cette façon de représenter la diversité permet à chacun de se sentir inclus. Et donc ce qui laisse vraiment au lecteur, à la lectrice, la liberté de se projeter, d'imaginer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc voilà deux exemples d'illustration. Pour comprendre cet exemple de la pédagogie inclusive, il faut souligner que ce livre le plus important du monde représente l'homosexualité dans des contextes divers, et notamment dans des chapitres où il n'est pas question de sexualité particulièrement. Dans des chapitres où il n'est pas question d'homosexualité. Donc là, effectivement, on a dans le chapitre sexualité un couple, a priori peut-être de jeunes garçons, quoique c'est pas sûr non plus, mais peut-être que oui. Et puis bah, par contre, on a voilà, dans le chapitre sur le corps, donc là où il s'agit pas de sexualité particulièrement, un couple de papas qui félicitent leur fille qui vient d'avoir ses règles. Mais c'est juste une manière, voilà, parmi d'autres, de montrer qu'il y a aussi des familles qui ne sont pas nucléaires, etc. Et couplé à chaque fois avec couleur de peau, etc. Voilà, donc le principe de l'inclusion, ça remet d'une certaine manière en question la norme, puisque ça présente la norme comme un élément parmi d'autres, dans une diversité. Mais la pédagogie inclusive, elle ne critique pas explicitement la norme. Elle n'essaye pas de la déconstruire. C'est-à-dire que c'est presque inclure tout le monde dans la norme, finalement. Donc c'est pas une remise en question, c'est pas quelque chose d'extrêmement subversif, même si en France, le simple fait de mentionner l'homosexualité, c'est déjà subversif. Donc, voilà. Mais en réalité, en Suède, on est déjà passé à l'étape suivante, où en tout cas, on couple cette pédagogie inclusive avec un quatrième type d'attitude, qui est celui de la pédagogie critique de la norme, qui met en cause la norme en tant qu'instrument de domination, notamment donc, par des textes explicitement critiques de l'hétéronormativité, par exemple. Donc, j'en viens donc à cette dernière pédagogie, celle qu'on appelle pédagogie critique de la norme. En revenant donc sur les exercices de lutte pour l'égalité et contre les discriminations qui ont existé avant cette pédagogie critique de la norme. Dans les exercices de lutte pour l'égalité et contre les discriminations, on avait tendance à se focaliser sur le fait de générer une certaine compréhension et donc une certaine tolérance et une sympathie envers les victimes d'abus, de discrimination, de harcèlement, etc. Les victimes en question, c'était du coup souvent les personnes LGBT, les minorités ethniques, les personnes porteuses de handicap, etc. L'approche critique de la norme, elle est radicalement différente. Plutôt que de se focaliser sur ceux et celles qui dévient des normes, il va s'agir de se concentrer sur les normes elles-mêmes et sur comment ces catégories sont produites, comment on classe les personnes en normales ou anormales, qui classe, pourquoi, qui détient ce privilège de pouvoir classer, de pouvoir tolérer, etc. Et donc les personnes qui ont conçu la pédagogie critique de la norme, elles considèrent que cette méthode fait prendre conscience des normes, améliore les connaissances sur les conditions de leur production et de leur reproduction, et puis pose la question de l'origine de la discrimination. Ce qui est bien plus constructif en réalité, en termes de prévention, que de simplement faire preuve de compassion une fois le dommage causé. Ah, les pauvres. Voilà. En France, effectivement, la stratégie adoptée par le ministère de la Santé, l'Institut national de prévention et d'éducation, je ne sais plus exactement comment on dit, INPES, éducation et prévention, ou de prévention à la santé. Voilà. Cette stratégie-là, c'est de s'attaquer aux conséquences et aux résultats. Effectivement, par exemple, on s'est rendu compte que bah, l'homophobie, c'était pas cool, donc faudrait peut-être essayer de faire quelque chose. Sauf que, pour l'instant, on ne s'intéresse pas vraiment à l'hétéronormativité, et en tout cas à la source des discriminations, qui est donc ce système hétéronormatif. En Suède, on a commencé à comprendre qu'il fallait justement réfléchir sur le fonctionnement des normes et des rapports de pouvoir pour amorcer un changement social fondamental. Ce changement social ne pourra pas advenir si on ne réfléchit pas aux causes et si on n'est que sur les conséquences. Donc la perspective critique de la norme, elle traverse l'ensemble du manuel, le livre le plus important du monde. Je vous donne un petit exemple. Dans cette image-là, cette illustration, on a une critique de la présomption d'hétérosexualité. Avec voilà une maman, a priori, qui demande à deux jeunes filles « Alors, vous êtes amoureuse de quelqu'un ?» Oui, l'une de l'autre. Et on sait que cette illustration est là pour montrer que le public s'attend habituellement, et les parents s'attendent habituellement, à ce que leurs enfants soient hétéros. Or, c'est pas toujours le cas, et c'est bien de s'en rappeler. Notamment dans les séances d'éducation à la sexualité, on sait que dans le public, il y a des personnes LGBT, et on ne parle pas que pour elles. Ce qui est important, c'est surtout de montrer que même les personnes de la norme doivent être concernées dans ce processus. Voilà, donc l'auteur du manuel, elle explique qu'elle a choisi de travailler avec la pédagogie critique de la norme de deux manières. d'une part en décrivant et en posant des mots sur les normes qui existent, parce que c'est bien le principe d'une norme, c'est généralement d'avoir le privilège de ne pas être nommé. Tout à l'heure, je parlais des personnes cis. Les personnes cis, c'est les personnes qui ne sont pas trans. Effectivement, le terme de trans est arrivé bien avant le terme de cis, et encore, le terme de cis est très peu connu. Voilà, c'est le privilège des personnes cis, c'est de ne même pas avoir besoin d'être nommé comme étant personne privilégiée et comme étant faisant partie de la norme. Donc, elle explique, hein, elle essaye de poser des questions contradictoires. Est-ce qu'il faut que nos modes de vie ressemblent à la norme? Est-ce que ça peut ressembler à autre chose? Comment? Etc. Et puis la deuxième façon qu'elle a de travailler sur cette pédagogie critique de la norme, c'est le fait d'illustrer donc cet ouvrage d'images critiques de la norme, d'exemples, de citations. Tout est réfléchi, même les dessins les plus simples. Voilà, donc au lieu de tolérer par exemple les femmes qui ne veulent pas d'enfants, là j'élargis un peu la question, la pédagogie critique de la norme remet en question et déconstruit l'injonction à la maternité. Alors, le livre le plus important du monde, il présente aussi la diversité des modes de vie, des façons de faire famille, avec ou sans enfants, avec ou sans lien biologique, etc. À chaque fois dénaturaliser, mais surtout pointer la norme en question, comment elle se produit, etc. Voilà, alors pour conclure sur cette dernière pédagogie critique de la norme, c'est important de noter que là, je vous ai donné l'exemple du traitement de l'homosexualité dans l'éducation à la sexualité, mais évidemment, la pédagogie critique de la norme, elle peut être utilisée dans tous les contextes parce qu'elle est intersectionnelle par essence. C'est-à-dire que le fait de s'interroger à la norme plutôt qu'aux marges permet vraiment d'envisager les rapports de pouvoir et de domination de manière transversale. Par exemple, on ne peut pas parler d'hétérosexisme sans parler de sexisme, les deux sont forcément liés. Même chose, tiens, comment ça se fait que dans les milieux racistes, les gens sont aussi homophobes et aussi misogynes? Le fait de ne pas réfléchir à cette concordance, c'est manquer une grosse partie du problème. Et donc la critique de la norme, elle va servir aussi à mettre des liens là où on n'en est pas habituellement. Et puis, par ailleurs, il ne s'agit pas simplement d'une réflexion en termes de majorité-minorité. C'est vraiment plus une réflexion en termes de rapport de pouvoir. Or, le pouvoir n'est pas forcément détenu par la majorité. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut aussi poser la question du genre. Les femmes ne sont pas une minorité. Et c'est pas parce que les femmes sont en majorité qu'elles dominent. Voilà. Et même chose, je sais pas, si on prend du coup l'exemple de l'apartheid, les personnes qui étaient dominantes en Afrique du Sud n'étaient pas celles qui étaient forcément les plus nombreuses. Donc, la critique de la norme, ça permet aussi de pas... penser qu'il s'agit de problèmes de minorité, mais bien qu'il s'agit de problèmes de rapport de pouvoir. Bon, ben voilà, je vais rester là.
Merci bien.